Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, les partisans d'une sortie de l'Union européenne maintiennent la pression jusqu'au bout, à la fin d'une semaine cruciale au Parlement à Londres. La marche du Leave pour quitter l'UE arrive enfin dans la capitale britannique.
Theresa May a dit des dizaines de fois « On sort le 29 mars, on sort le 29 mars », puis elle change la date. Je commence à croire qu'elle a fait exprès pour qu'on ne quitte pas l'Union européenne. Elle a eu 3 ans. Ils essaient d'anéantir le Brexit, mais j'espère qu'ils n'y arriveront pas. Parce que 17,5 millions de gens ont voté pour la sortie, il faut les respecter.
Respecter la voix du peuple et essayer de ne pas perdre la tête dans le tourbillon du Brexit. Pour ça, les Britanniques ont une arme redoutable, c'est l'humour, Marie Billon.
Madame la Première Ministre, de nouvelles démissions aujourd'hui? Question assassine lancée par un journaliste posté devant Downing Street alors que Theresa May sort de sa voiture de fonction avant de passer la fameuse lourde porte noire du number 10. Une fois refermée, une caméra de surveillance prend le relais à l'intérieur. On entend ici des brassements d'air. C'est Theresa May qui fait de multiples doigts d'honneur énergiques à la presse. La première partie est authentique, la deuxième évidemment pas. C'est un montage effectué par une boîte de recrutement. Vous aussi, vous en avez marre de votre boulot. Theresa May est l'objet de nombreuses vidéos humoristiques, dont la plus connue reste celle de l'acteur du Seigneur des Anneaux, Andy Serkis, qui a comparé la première ministre qui s'accroche à son précieux accord à Gollum, son personnage et son anneau.
Our agreement. This is it. Our deal. Yes. Yes.
Mais Theresa May n'est pas qu'un monstre inquiétant, c'est aussi une rappeuse hors pair, comme dans ce montage.
Let's get on with it. No deal. Brexit. Right wrong. Collaborate and listen. Brexit is at the
grand new question.
No deal is the latest sensation. Because I make a mess of these negotiations.
Should we be?
Or is celui?
Nothing's changed.
They want to know how I feel about it.
You want to tap on things.
Si elle n'est pas la seule à avoir des talents cachés dans cette vidéo parodique, Jacob Rees-Mogg, le député Tory ardent pro-Brexit, connu sous le sobriquet de député pour le 18e siècle tellement il est vieux jeu dans son attitude et ses opinions, il pousse aussi la rapounette sous le nom de Snoop Mogg. C'est évidemment encore un montage posté sur la page Facebook de Very Brexit Problem, un fil d'actualité qui préfère rire que pleurer du Brexit, et les comics s'en donnent effectivement à cœur joie. Les 3 comédiens Foyle, Arms and Hogg ont mimé une scène de ménage.
I feel like I'm losing my identity.
Now you are just blaming me for your own personal problems.
All I know is I'm unhappy and I need to be on my own for a while.
So you are off the market?
La Grande-Bretagne annonce à l'Union européenne qu'elle la quitte car elle a l'impression de perdre son identité et elle veut la garde complète de leur enfant nommé Irlande. Non, il s'appelle Irlande du Nord, rétorque l'Union européenne.
He stays with me!
You can't use him as some sort of pawn!
Oh, you do not even know his name!
Ireland!
Northern Ireland!
Et l'émission satirique de la BBC, The Mash Report, a de son côté proposé.
Anyone could do what Rees-Mogg et al. Are up to. And I'll prove it by announcing my new Brexit deal. Frictionless.
Son propre accord du Brexit. Les échanges commerciaux passent sans souci à travers les frontières, car les produits exportés sont recouverts de vaseline et glissent sur un toboggan géant. Liberté de mouvement des personnes, sauf que personne n'a le droit de venir dans le cadre d'une loi nommée le 18e siècle encore. Et puis surtout, Diana, paf, de retour. Et ne me demandez pas. Pourquoi
Diana, back. Don't ask me how.
L'actrice Tracy Ullman, qui a son propre show sur la BBC, là encore, a consacré plusieurs sketchs au Brexit, notamment cette publicité.
Are you looking for a taste?
Êtes-vous à la recherche d'un sucre qui satisfera vos pros et vos anti-Brexit en même temps? Pourquoi ne pas essayer le bonbon de Theresa? Le bonbon de Theresa contient tout ce que vous voulez, tant que vous promettez de ne pas démissionner. C'est doux, crémeux et extrêmement vague.
Cet accord dit clairement que nous ne resterons pas au sein de l'union douanière, dont nous ne serons pas membres, tout en restant fermement dans son périmètre depuis l'extérieur.
Teresa concocte ses bonbons avec amour dans une petite salle sans aération à Westminster. La Chambre des Lords ajoute ensuite jusqu'à 15 nouveaux ingrédients. Puis la Chambre des communes les retire tous un à un. Le produit fini est plein de grumeaux, mais surtout...
C'est une invention totalement originale.
Ni dur ni mou, c'est profondément insatisfaisant.
Teresa's Brexit fudge.
Will you buy it? Will anyone?
Et puis il y a aussi les excuses. Les Britanniques sont connus pour leur sorry à profusion. C'est l'angle choisi par le groupe anglais Fascinating Ida qui se présente contrite devant un public écossais portant fièrement le kilt d'Estelle.
We're so sorry, Scotland. We are covered in shame for the madness of Brexit. We're entirely to blame. With the choice of two boxes, we ticked self-destruct. Thus Britain is now comprehensively fucked.
Le climat d'incertitude autour du Brexit n'a pas fait rire les financiers cette semaine. La livre sterling a plongé en bourse ces derniers jours. Michael Vincent travaille sur les questions économiques et la stabilité financière auprès des institutions européennes. Il est l'auteur d'un essai, Le banquier et le citoyen, publié par la Fondation Jean Jaurès. Alors pourquoi est-ce qu'on n'entend pas les financiers et les banquiers en ces temps de Brexit, ni hier pour le référendum, ni aujourd'hui ?
On sait très bien que la voix des banquiers, parfois, est contre-productive. Donc, si les banquiers s'étaient peut-être un peu trop exprimés en faveur du Remain, ça aurait pu être un argument qui aurait été utilisé par les partisans du Brexit, qui, à mon avis, au-delà de se débarrasser de Bruxelles, ne se seraient peut-être pas gênés pour se débarrasser de quelques banquiers en plus. Il faut reconnaître aussi que du point de vue du banquier en général et du point de vue du monde de l'entreprise en général d'ailleurs, le silence était de mise parce que dans un référendum aussi clivant, forcément, il était difficile de se mettre une partie de sa clientèle à dos puisque, a priori, les électeurs sont aussi des clients et il est compliqué de se mettre à dos une clientèle pro-Brexit ou pro-Remain selon son point de vue. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, le silence assourdissant qui est encore de mise aujourd'hui, il faut savoir qu'en fait, il est assez symptomatique du silence habituel de la profession qui va plutôt préférer, en général, s'exprimer, donner son avis, militer dans les coulisses, c'est-à-dire via ses associations, via les lobbies, essayer d'avoir une oreille à Whitehall ou ici au Parlement européen ou à la Commission. Mais très rarement, ce secteur va très peu essayer de s'exprimer au niveau de l'opinion publique.
En ce moment, ça se passe dans les coulisses, dans les couloirs. Il y a beaucoup de lobbying, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, non ?
Oui, c'est ça, c'est précisément le terme du lobbying. Alors évidemment, la finance, par nature, va plutôt privilégier le libre-échange et le Brexit est un frein au fonctionnement normal de la City. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur les équivalences, d'inquiétudes sur les chambres de compensation. En général, l'inquiétude sur la capacité à pouvoir dealer, à pouvoir échanger avec l'Europe, en sachant que jusqu'à très peu de temps, la plupart des échanges, même en euros, se faisaient à Londres.
On voit dans les dernières prévisions de l'OCDE, il y a un gros coup de blues sur la croissance européenne. Beaucoup attendent la prochaine crise pour très vite. Ça peut venir par exemple du Brexit ou ça a été anticipé par les marchés ?
Il y a eu effectivement un impact financier déjà à l'époque du référendum, qui a été une surprise quand même pour beaucoup de personnes en juin 2016. Il n'est pas à exclure qu'il y ait effectivement des mouvements de marché assez importants une fois le deal ou l'absence de deal sur la table d'ici quelques jours. Cette fois, je n'exclurai pas le fait qu'une crise financière puisse cette fois-ci venir d'une crise politique, puisque l'incertitude politique augmente, avec des votes historiques comme le vote du Brexit, avec la montée de mouvements souverainistes ou nationalistes, et même des comportements comme le comportement du président américain Donald Trump, de protectionnisme, et qui met un frein au libre-échange et qui effectivement rabat les cartes. Et cette instabilité politique pourrait créer une instabilité financière à terme.
Le président Erdogan dramatise l'enjeu des élections municipales qui se déroulent dimanche en Turquie. Mais dans les rues d'Istanbul, acquises depuis 25 ans à Recep Tayyip Erdogan, tous les électeurs ne sont pas convaincus. C'est un reportage d'Anand Lohr.
La matinée est bien avancée sur le marché de Beşiktaş, en plein centre d'Istanbul. Tefik Güner installe soigneusement son étal, des pyjamas pour femmes et des petites culottes. Ce commerçant de 38 ans annonce volontiers pour qui il va voter dimanche aux élections municipales. Pour la mairie d'Istanbul et pour celle de son arrondissement, Bacalar, ce sera l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan. Tefik avait 13 ans lorsque l'actuel président turc est devenu maire d'Istanbul. Depuis qu'il a l'âge de voter, il lui a toujours fait confiance.
Quand il est arrivé à la mairie, Istanbul a changé de visage. Les coupures d'eau ont cessé, les piles d'ordures ont disparu, les bus municipaux ont été rénovés, avec la clim à l'intérieur. Je suis encore jeune, mais j'ai connu l'époque où on allait chercher l'eau potable dans des tankers. Je remplissais des bidons entiers. C'est simple, je vote pour ceux qui m'apportent un service.
Tefik exagère à peine. Outre une redoutable machine électorale, Recep Tayyip Erdogan doit ses premiers succès aux services municipaux qu'il a pris soin de développer dans des arrondissements jusqu'alors délaissés. Mais 25 ans plus tard, alors que son parti affronte une nouvelle élection municipale, le chef de l'État turc concentre sa campagne sur de tout autres thèmes. Il est question dans ses discours de la survie de la nation, de la lutte contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, de l'Occident islamophobe qui menacerait les Turcs et leur religion dominante. Si Recep Tayyip Erdogan dramatise à ce point un scrutin local, c'est qu'il manque d'arguments pour mener sa campagne, explique le politologue et économiste Ahmet İnsel.
L'économie n'est plus un thème mobilisateur. Si vous avez remarqué, il essaie de ne pas parler de l'économie. Il ne fait pas une campagne comme les autres campagnes précédentes sur l'avenir radieux de la Turquie.
On en est très loin désormais. La Turquie est entrée en récession l'an dernier. Le chômage dépasse 13%, un record depuis 9 ans. Et les prix ont grimpé de plus de 20% sur un an, notamment dans l'alimentaire, à tel point que l'État organise désormais des ventes de légumes à perte. Bülent Özlü, marchand de produits laitiers, fulmine en abordant ce sujet.
On nous dit qu'avant Erdogan, il n'y avait rien. Là, on a tout, mais on n'a pas d'argent. Les gens font la queue pendant une heure pour acheter des patates et des tomates pas chères. Notre pays est tombé bien bas.
Ce marchand de 59 ans se décrit comme un idéaliste, ce qui, dans le langage politique turc, signifie que Bülent est un ultranationaliste, un loup gris comme on les appelle. Pourtant, dimanche à Istanbul, il ne votera pas pour le candidat du pouvoir soutenu par le parti ultranationaliste. Il choisira le candidat de l'opposition social-démocrate. Plus encore que l'État délabré de l'économie, Bülent dit ne pas supporter la façon dont Recep Tayyip Erdogan brandit la survie de la nation pour gagner quelques voix.
De mon point de vue, la Turquie a toujours lutté pour sa survie, contre l'Irak, l'Iran, l'Arménie, Chypre. Nos frontières ont toujours été menacées, rien n'a changé. Alors, où est-il allé chercher ça? C'est maintenant, alors qu'on doit juste élire des maires, qu'il nous agite sous le nez la survie de la nation.
Si l'argument de la survie ne convainc pas ce nationaliste dur, il ne prend pas non plus auprès de certains électeurs du parti au pouvoir. Ömer Atilla, un homme d'affaires de 36 ans, estime que la Turquie n'affronte pas de menaces existentielles. Il n'est pas davantage effrayé par l'état de l'économie. Selon lui, paradoxalement, les difficultés actuelles sont même un test positif.
Dans les années 1990 et 2000, ma famille a fait faillite 3 fois. Nous avions des dettes en dollars et quand le cours s'est envolé, nous avons mis la clé sous la porte. Aujourd'hui, j'ai toujours des dettes en dollars, 22 000 dollars de dettes. Et pourtant, quand le cours s'est envolé l'année dernière, je n'ai pas fait faillite. Pourquoi ? Parce que les fondamentaux de l'économie sont bons. À l'époque, le pays entier faisait faillite en cas de crise. Là, non, je ne dis pas qu'Erdogan fait tout parfaitement, mais est-ce que les autres feraient mieux ? Je n'y crois pas une seconde.
Tahir Yaltay, lui, habite à Sarıyer, un arrondissement d'Istanbul géré depuis des années par le CHP, le Parti Social-Démocrate. Mécontent des services municipaux, cet homme de 60 ans votera pour un autre candidat d'opposition à Sarıyer dimanche. Mais pour la mairie d'Istanbul, il est encore indécis. D'un côté, le candidat du CHP, Ekrem İmamoğlu, de l'autre, pour l'AKP, l'ancien Premier ministre Binali Yıldırım.
Le cœur voudrait que je vote pour le candidat du CHP, mais j'hésite, parce qu'il n'a encore rien fait pour ce pays. Alors qu'en face, il y a un candidat qui a été député, ministre, Premier ministre. Qu'on le veuille ou non, ça fait réfléchir. En tout cas, ça fait réfléchir les électeurs qui, comme moi, votent pour un candidat plus que pour un parti, pour des enjeux locaux et non pas nationaux. Pourquoi est-ce que je m'inquiéterai de la survie de la nation quand il s'agit de choisir quelqu'un pour améliorer ma ville ?
Si Recep Tayyip Erdogan dramatise à ce point l'enjeu des élections, c'est aussi qu'il redoute de perdre plusieurs grandes villes, notamment Istanbul, mais surtout la capitale, Ankara. Certes, une éventuelle défaite ne le priverait ni de son fauteuil, ni de sa majorité, mais pour un président qui s'est tant impliqué dans la campagne, ce serait une humiliation. Et un risque politique aussi, puisqu'une ou plusieurs défaites pourraient encourager ceux qui, dans la famille politique du président, cherchent à créer une alternative.
There's a trap set up for you.
En Ukraine aussi, on vote dimanche. Premier tour de la présidentielle. 39 candidats, un acteur, Volodymyr Zelensky en outsider, et le président sortant, Petro Poroshenko, et l'ancienne première ministre, Yulia Tymoshenko, au coude à coude. Mais l'organisation du scrutin et la campagne soulèvent déjà beaucoup d'interrogations, Sébastien Gobert.
La campagne la plus sale et la plus chère depuis l'indépendance du pays en 1991. C'est ainsi que plusieurs politologues décrivent les semaines qui ont précédé le scrutin. Les observateurs craignent une multiplication des irrégularités le jour même du vote. Les candidats ont investi des sommes records dans la campagne. Petro Poroshenko aurait déboursé de sa poche plus de 13 millions d'euros entre février et mars. Un autre nombre record, c'est celui de 139 ONG qui sont enregistrées comme observatrices d'élections. La milice paramilitaire ultranationaliste Nationalny Droujini est aussi enregistrée comme observatrice. Son chef a déjà évoqué la possibilité de frapper quelqu'un au visage en cas de fraude. 5 ans après la révolution de l'Euromaïdan, la campagne pour cette 7e élection présidentielle en Ukraine paraît bien loin des standards européens. Mais avec 39 candidats en lice, la scène politique ukrainienne montre aussi sa vitalité. Le philosophe Volodymyr Yermolenko insiste sur le fait que le comédien Volodymyr Zelensky est favori des sondages, comme une preuve pour lui que le système autorise les outsiders à se faire une place. C'est une critique en creux du voisin et ennemi actuel, la Russie. Est-ce que cela suffira à résoudre les problèmes de fond des Ukrainiens, la pauvreté, la corruption et la guerre? Le taux de participation de dimanche indiquera combien d'Ukrainiens y croient encore.
Musique.
Vendredi, la musique avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette.
Et une découverte, Misha Furtak, elle vient de Pologne.
Ah oui, à l'occasion de la récente parution de son tout premier album solo. Pour autant, cette musicienne de 36 ans n'en est pas à son coup d'essai et le public polonais la connaît bien, notamment parce qu'elle anime une émission sur la radio publique et qu'elle a déjà connu un certain succès avec le groupe Très B au début de la décennie, un groupe qui s'était formé à Copenhague, où Misha Furtak était alors étudiante, avant de se relocaliser à Varsovie, où le succès devait lui tendre les bras. Aujourd'hui, après quelques collaborations, c'est sous son seul nom que Misha Furtak publie une collection de chansons assez sophistiquées, chantées pour certaines en anglais et pour d'autres en polonais. Elle explique d'ailleurs que son écriture est très influencée par la langue qu'elle choisit. En anglais, elle privilégie davantage la narration, quand l'usage du polonais la conduit vers un jeu plus poétique sur les rimes et les rythmes.
Dzięki za pamięć, nie ma za co, zazdroszczę tym, co pamięć tracą. Rzymantyki bez połysku nie zalegają gdzieś na dysku.
Misha Furtak, Pamiętaj sur RFI. Merci Vincent Théval. À la semaine prochaine. Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, vous nous retrouvez, vous nous suivez sur les réseaux sociaux et sur notre site internet rfi.fr dans les podcasts Accent d'Europe. Très bonne journée.